de l'humanité en fonction finalement de ses capacités, sa permanence, c'était ça, on était Quindi amici giovani, loro parlano, che presenti, e sempre questo lo vedete. Abbiamo cercato di tutto il possibile fino a noi su sistema, anche a questo livello, perché il passo è quasi da tutti i giri, quindi la cosa sensibile, non tutto più, bisogna fare il traffico di religio, e si fa meglio loro, come disse, a sempre c'è un'identità da fare, et en même temps, ce que je voyais aussi, c'est que derrière les proclamations de vous allez voir ce que vous allez voir, la modernité, le progrès va libérer l'être humain, moi ce que je voyais, c'était la frustration, c'est-à-dire que la maternelle, l'université, on est enfermé, ensuite on va dans les casernes, ensuite quand on demande aux gens de travailler, tout le monde dit, je travaille avec une petite boîte, avec une autre boîte. Pour aller s'amuser les jeunes ministres, je suis allé me poser en boîte. Et quand je suis allé, je suis allé dans la caisse. Vous avez la boîte pour se faire les yeux avant la dernière fois.
Est-ce que vivre autrement, c'est possible? Et c'est ce que nous allons chercher à faire dans
toute façon, il y a une nécessité pour un grand nombre de populations sur la planète d'accéder à la connaissance, mais aussi à la croissance économique telle que nous, au fond, nous l'avons adapté depuis une centaine d'années.
Oui, mais ça réagit fort à la demande primale qui s'est produite dans la révolution avec le paradigme de la combustion énergétique. Qui a inventé la technologie? C'est l'Occident. L'Occident a inventé la technologie, il a donc créé ce qu'on appelle la révolution industrielle. Cette révolution industrielle a nécessité, c'est pas que l'on revient à la politique de Karl Marx, la nécessité évidemment du capital financier, la nécessité de la force de travail. Et la nécessité évidemment de l'imagination et de la créativité, mais elle s'est construite aussi sur le pillage de la planète, c'est-à-dire la concentration des ressources planétaires par la loi de la colonisation. On pourrait aller chercher tout ce qu'on voulait comme énergie, comme matière première, comme force de travail, pour réfléchir ce modèle que l'on ne pourrait pas reproduire. Alors qu'il n'y en a pas.
Il fallait votre sortie de secours à vous. Ce titre ressemble beaucoup, en tout cas, mais des fois, ce qui ressemble beaucoup, ce que j'ai raconté dans la communauté.
Comment est-ce que j'en suis arrivé à avoir des idées qui sont venues maintenant? C'est en prenant conscience de la petitesse de la Terre, de sa fragilité, de son importance. Pour la lumière, la Terre c'est notre matrice, et quand on parle d'environnement, c'est un peu comme ça, dans un décor de théâtre, c'est une mauvaise image, il faut concevoir la Terre comme notre matrice. Et si on atteint, si on porte atteinte, on est en quelque sorte comme un fœtus à l'intérieur de sa matrice, et qui devrait être tout à l'intérieur de la matrice de sa mère, c'est vrai, on subit les conséquences. Et moi j'ai été élevé au volet de Cousteau, de la Calypso, je suis un 68 ans, je me suis d'abord régalé de partir avec Cousteau pour admirer les baleines, les requins, les coraux, les coraux en terre. Mais je me souviens très bien de la première entrevue que j'ai eue avec lui, quand j'ai commencé à travailler avec lui, en 1972, et il a fini son interview de moi, pour voir si j'allais correspondre ce qu'il voulait, c'est-à-dire un écrivain qui m'a fait tout, en disant que j'ai vu des spectacles du monde que personne ne devait jamais vu. Et il avait continué en disant, j'espère que quand j'aurai de l'âge, vous n'aurez pas à dire la même chose aux générations suivantes. Et Cousteau avait 35 ans plus que moi, et j'ai vu l'année dernière, quand j'avais dans cette entrevue, c'est passé. Et malheureusement, évidemment, vous voyez la même chose que lui. J'ai vu des spectacles du monde que personne ne verra plus, que les enfants ne verront pas, que les petits-enfants ne verront pas, des magnificences de coraux, des spectacles de baleines, des forêts tropicales intègres, des spectacles de la montagne, mais c'est aussi des peuples qui vivent dans ces moments-là, à l'époque, qui ont leur tradition, leur culture, leur langue. Et certains de ces spectacles, beaucoup de ces spectacles, comment on dit dans cette idée unique, pensée-unique, sur laquelle le progrès, c'est de faire de l'argent, pour se progresser. Et ça m'a paru être une telle perte que je me suis dit non, c'est pas possible de s'en tenir, nous n'en tenions pas à cette définition d'un progrès. Le progrès, ça peut paraître une perte permanente de richesse culturelle, de richesse biologique, de possibilité de vivre, de joie de vivre. Et là, évidemment, j'ai, pendant toutes ces années-là, essayé de taper un petit peu sur le coup, dans tous ces coups. Il y a des quantités de bouquins qui disaient tantôt le monde est nous, tantôt à Baton, parce que rien nous, que cette destruction allait avancer à une vitesse absolument incroyable. Et puis, je me suis moi un peu énervé, peut-être que c'est le syndrome de la soixantaine, j'ai écrit une l'intimité des soirées dans les bras, pour dire, voilà, on est capable de se faire disparaître nous-mêmes, on est la première espèce vivante qui est capable de se faire disparaître nous-mêmes, peut-être que c'est un dernier moment au cours du 21e siècle, c'est le siècle où il disait que dans ce livre le plus dangereux de l'histoire de l'humanité depuis que l'humanité existe, mais ensuite je me suis vraiment rattrapé, on essaie de le faire avec ces C'est une notion qu'on prend mal. Certains disent la décroissance, la décroissance, c'est un mot qui n'est pas très bien vu, parce que j'ai l'impression qu'on enlève quelque chose, je peux faire un mot positif, le partage, le partager avec
un niveau de la croissance en fait.
Alors, il faut que dans les pays riches, on diminue assez sensiblement la consommation de biens matériels, de façon à en faire profiter aux 900 millions de personnes qui mangent pas leur faim, aux 1,3 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable, et ainsi de suite. Il faut partager ces mots qui aident à. La décroissance pour les plus riches, de façon à ce que les pauvres en paient un petit peu plus. Parce que ceux qui vivent avec 1 euro par jour, évidemment, les pauvres arrivent à donner un petit peu plus, et c'est une simple valeur philosophique et morale que d'essayer de partager. La deuxième nécessité, parce que j'appelle la deuxième utopie, c'est une loi de l'économie. À l'heure actuelle, et on revient, c'est en dernier, avec la crise du libéralisme privé. Là où il y a de la loi, on a toujours des gens qui vont essayer de profiter des gens de leur territoire, des gens de leur population, prendre avantage. Et si on veut décider que dans le monde, il y a des valeurs supérieures, notamment que notre terre en bonne santé et la condition de l'humanité, si on décide pour la garder comme ça, elle est obligée d'imposer des lois à des gens qui ne veulent pas les respecter, les lois sur le climat, les lois sur le respect de la planète tropicale, sur le respect de la biodiversité en général, sur le fait qu'on va pas toucher la partie, qu'on va respecter la partie, que les ressources de la mer en poisson doivent être gérées correctement. Il faut des lois. Et je demande, j'essaye d'espérer qu'un jour, dans le siècle qui vient, on arrivera à fonder les États-Unis du monde, les démocraties du monde, non pas pour lisser, pour écraser le particularisme, mais pour justement les préserver la diversité de la Terre. La troisième utopie que j'essaye de promouvoir, c'est une utopie qui là est philosophique, je reviens au premier niveau de philosophe, c'est ce que j'appelle la philosophie du peu, mais qui consiste à faire une critique radicale de la société de consommation et d'autres comportements organiques de cette société de consommation. Nous devons non pas nous laisser aller, en dehors de nous par les sollicitations, la publicité, du marketing, nous devons essayer de reconquérir notre propre existence, de savoir philosophiquement pourquoi nous sommes là, c'est un peu à nous poser la question, et si nous décidons que le bonheur est une valeur qui nous intéresse, à ce moment-là, nous devons revenir à des penseurs qui ont déjà posé cette question-là et qui vont en améliorer le coup, en disant que la seule condition pour vivre le bonheur, c'est de maîtriser ses propres désirs, on n'a pas de se laisser entrer dans des désirs qui viennent de l'extérieur et qu'on essaie de nous imposer de l'extérieur. Donc j'essaie de réaliser les trois utopies en disant aussi que ce sont moins utopies, mais qu'elles sont beaucoup moins utopies que plus majoritairement répondu à la règle de la médias, sur laquelle la croissance matérielle, indéfinie est possible pour s'agir, c'est une utopie majeure, ça n'arrivera jamais.
Autrement, parce qu'on va
Fass, qui arrivait un peu bien avant moi, mais qui m'avait permis de dominer la nature. Donc je crus que le progrès allait sauver la condition humaine. Et puis en vieillissant, le progrès a créé la spécialité. C'est-à-dire que vous étiez un bon lanceur, moi j'étais un bon découpeur. Donc on s'est associé et on est devenu spécialiste. On a quand même commencé à fabriquer du social. Et puis je me suis rendu compte que ce progrès n'était pas linéaire, c'est-à-dire qu'il y avait toujours des effets secondaires du progrès. Comme pour un médicament marche et on le perd. Alors le prix, c'est le problème, c'est que nous coûte le progrès. Est-ce que si on a plus de maléfices que de bénéfices, est-ce que ça vaut la peine de continuer à faire le progrès, même si ces progrès sont technologiques? Alors, exemple. En 1300, j'habite à Toulon, près de Marseille. En 1348, il y a un grand progrès, c'est qu'on ramène les grèves des pays étrangers. Et puis il y a un rat qui descend et qui provoque une épidémie de peste. C'est-à-dire que les moulins à vent, qui ont été une véritable révolution technologique, ont permis d'économiser la farine et de diminuer la mortalité enfantine. Donc c'est un vrai progrès. Mais en stockant, grâce à, on apporte des grains, on fait des moulins à vent, on stocke de la farine, on crée un pays de cocagne pour les rats. Et la peste démarre, et 2 ans après, un Européen sur 2 a disparu. Est-ce que vraiment il y a un progrès linéaire? Donc je pense qu'il n'y a pas de progrès linéaire, et qu'actuellement, mais peut-être dans trop d'effets secondaires, plus d'effets secondaires que de bénéfices.
Mais la spécialisation que vous évoquez là, c'est pervers à ce point.
Alors là, en disant ça, je me fais penser à Michel Foucault. Et Michel Foucault m'a fait faire un progrès le jour où il m'a fait comprendre qu'une institution qui ne se réforme pas évolue spontanément vers la perversion. Or, l'argent a été un progrès quand il a été inventé, ça nous permettait de ne plus faire de troc. Au lieu de porter un sanglier et de l'échanger contre de l'eau ou deux troncs d'arbres, je vous donnais de l'argent. C'est un progrès, j'arrive juste à remplir mon porte-monnaie. Seulement, l'argent a eu un tel succès qu'il a fini par devenir pervers. Pervers, ça veut dire un monde sans altérité. Un monde clos où l'autre n'existe plus. L'autre est un pantin, une ombre, c'est pas une personne. Donc, on n'en tient pas compte. Or, l'argent est devenu pervers, alors que c'était un progrès au début. Et il est devenu pervers, c'est-à-dire que l'argent ne fonctionne que pour faire de l'argent, qui fait de l'argent, qui fait encore de l'argent, il ne fait plus de relations humaines, il ne fait plus de travail, il ne fait plus de fêtes, il ne fait que de l'argent. Donc, l'argent est devenu pervers. Et quand on est dans un monde sans autre, l'élimination de l'autre devient sans culpabilité. C'est ce qu'on constate maintenant. Quand il y a des guerres, c'est des entrepreneurs, franchement, c'est pas bien grave. C'est pas tout à fait les hommes. Alors, on est dans cette stratégie-là parce que notre progrès, c'est un progrès. Dans le temps, c'est un progrès. Et aujourd'hui, c'est un phénomène pervers qui nous mène à la catastrophe.
Mais pendant des siècles, est-ce qu'on peut dire que le progrès était valable, peu ou prou, linéaire? Et puis, tout ceci s'est accentué, accéléré, et de plus en plus accéléré, d'ailleurs, au cours des 20 ou 30 dernières années, disons depuis la dernière guerre, bien sûr, mais surtout les 15 dernières années. Comment est-ce que vous auriez envie de nous dire ce qui se passe sur ce qu'on appelle les marchés financiers, la bourse, etc. Comment est-ce que vous, le spécialiste, vous traduisez ça?
Là, vous êtes tombé sur la bonne personne, parce que je ne connais pas du tout la question.
Je vais pas m'empêcher
de répondre.
Non, mais
je vais vous dire. Alors, non, ce que je vais vous proposer comme réponse, c'est que, effectivement, en 2 générations, c'est-à-dire depuis ces 50 dernières années, on a fait plus de 90% de toutes les découvertes scientifiques et techniques. Or, quand vous pensez qu'une toute petite découverte technologique participe à la modification de la manière de vivre ensemble. Exemple, ce qu'on appelle la pilule, le blocage hormonal de l'ovulation. C'est une découverte qui, sur le plan technologique, c'est rien du tout. Hein, c'est une manipulation expérimentale, c'est une expérimentation de rien du tout. La condition humaine est complètement bouleversée.
c'est-à-dire qu'en dehors de la pilule, les femmes deviennent maîtresses de la fécondité. C'est-à-dire qu'elles se pensent autrement. Une petite fille qui arrive au monde aujourd'hui, grâce aux progrès technologiques, a plus d'une chance sur deux d'atteindre sans un tort. Comme elles ont la maîtrise de la fécondité, elles disent, comme toutes les femmes, je vais faire 1,7 enfants, 1,8 enfants. Alors, ensuite, elles disent, d'accord, ça va me prendre 2 ans pour la maternité. Qu'est-ce que je vais faire des 118 ans qui me restent à tirer? C'est-à-dire qu'elles se pensent totalement de manière différente. Donc, se pensant de manière différente, on a un côtoyer des femmes qui fait que nous, on a à se penser aussi de manière différente, qui fait que nos enfants ont des images d'identification totalement différentes, qui fait que même quand ça ne se passe que en Occident, tous les pays non occidentaux savent que c'est possible et modifient aussi la manière de se représenter, la manière de vivre ensemble. Ce qui fait qu'une découverte technologique rien du tout a bouleversé la condition humaine. Alors imaginez un peu, 90% de toutes les découvertes viennent d'être faites. Il faut repenser toute la tradition.
Dans les découvertes en question, il paraît que ce sont des mathématiciens qui mettent au point ces formidables produits financiers, sur la production tout à l'heure, produits financiers qui font aujourd'hui qu'on est arrivé là où on est arrivé. Ça vous étonne? Est-ce que c'est un progrès? Ça, je ne parle pas en termes de bilan, bien entendu. Mais est-ce qu'il faut arrêter le progrès? Et comment est-ce qu'on peut arrêter le progrès? Comment est-ce qu'il faut amener les hommes à réfléchir autrement à cette question de progrès? Parce que c'est indispensable le progrès, vous êtes d'accord?
Oui, non, non. Moi, je pense qu'on ne peut pas revenir en arrière. L'évolution ne connaît pas la marche arrière. Que ce soit l'évolution biologique, l'évolution psychologique ou sociale, quand on a gagné quelque chose, on ne peut plus ne pas l'avoir gagné. Quand on a compris quelque chose, on ne peut plus ne pas l'avoir compris. Donc, l'évolution, on ne peut pas faire marche arrière. Le problème, c'est de prendre conscience du prix qu'on paye pour ces effets secondaires. Alors là, on est arrivé à un prix excessif. Et puis, on est arrivé à une perversion de la pensée, puisque vous m'avez invité à inviter Michel Foucault.
Oui.
Alors, on est arrivé à une perversion de la pensée. C'est-à-dire que, par exemple, je suis psychiatre, j'étais psychiatre. On nous a expliqué que quand on n'est pas bien, ça correspond à une chute de dopamine qui est un neuromédiateur, une substance qui passe entre une petite boulette de protides qui passe entre deux neurones dans la synapse. Alors c'est une découverte, c'est un progrès fantastique, parce qu'on le mesure, on mesure la chimie, on le rend observable, c'est une découverte fantastique. Conclusion logique, puisque la dopamine, cette petite substance, quand elle s'effondre, vous rend dépressif. Conclusion logique, il faut que je vous donne la substance qui vous remonte le taux de dopamine pour lutter contre votre dépression. C'est logique.
Jusqu'à présent, je vous suis.
Jusqu'à présent, voilà, c'est ça, jusqu'à présent. Maintenant, je vous emmène au théâtre, je vous emmène au cinéma, on va voir quelque chose qui vous bouleverse. Et ensuite, on va aller au restaurant, et puis on va discuter de ce qui nous a bouleversé. Et puis, on va mesurer votre taux de dopamine après le cinéma et après la discussion au restaurant. Qu'est-ce qu'on va constater? C'est que un bon film, une bonne discussion, a augmenté votre taux de dopamine encore mieux qu'une substance chimique. Alors là, on est à la société. Ensuite, c'est un progrès de la dopamine, c'est un progrès d'avoir compris ça. Et on arrive à une absurdité, c'est-à-dire qu'on fait résoudre par la technique alors qu'on peut trouver une solution par des relations humaines, culturelles.
Et alors, tout à l'heure, parlait de sorte de gouvernement. De grands régulateurs, je donne un gouvernement, un grand régulateur du monde, sur, on voit bien à quoi vous faites allusion, mais est-ce que ça pour vous, pour le neuropsychiatre, est-ce que c'est une source de progrès, ça? Une sorte de grand gouvernement mondial
une démocratie. Alors, quand j'ai entendu ça, quand j'ai entendu Pascal dire ça, je me suis dit, qu'est-ce que j'aimerais qu'il ait raison? Comme on est actuellement dans une période catastrophique, c'est-à-dire qu'il y a une coupure, un chaos, et il va falloir apprendre à vivre autrement, moi ce que je crains, c'est qu'on retourne vers le mécanisme de défense du clan. Parce que le clan, c'est le processus de socialisation archaïque. Et quand on est bousculé, quand on est angoissé, on retrouve les processus archaïques. Et dans le clan, on donne le pouvoir au chef, et la violence redevient une fonction socialisateur. Alors j'aimerais que vous ayez raison. Je vais voter pour vous quand vous me présenterez votre élection.
C'est une erreur. Non, c'est une vraie tendance humaine. J'ai analysé, pour ma part, les grandes pulsions animales qui font qu'on est des animaux différents, pulsions de territoire, de domination, de sexe. Et en effet, se réfugier dans le clan, dans ma petite tribu, dans mon petit pays, c'est exactement ce à quoi on assiste en ce moment. Chacun essaye de se réfugier dans sa nation, dans sa religion, enfin, dans son particularisme, dans sa communauté. Et pour les citoyens du monde dans mon genre, c'est une vraie catastrophe, et de plus. On en a déjà beaucoup, c'est là. Et une autre catastrophe, c'est pour ça que j'appelle ça une utopie. Mon idée de faire un gouvernement démocratique du monde, d'abord, il y a beaucoup plus de chances que si on fait un gouvernement du monde, ça soit une dictature du monde, parce qu'il y a quelqu'un qui va arriver à temps à prendre les rênes du pouvoir. Et la démocratie du monde, c'est la chose la plus difficile à mettre au point, mais à mon avis, c'est la chose la plus vitale aussi, du point de vue de l'humanité, de l'organisation de l'humanité, pas du point de vue philosophique. J'ai expliqué tout à l'heure qu'il fallait aussi cette révolution philosophique et ce besoin de partage, mais si on veut organiser le monde, on ne peut le faire que comme ça. La Terre est tellement petite, les hommes sont tellement nombreux, que de toute façon, l'alternative est simple. C'est ou bien on se réfugie dans nos particularismes, dans nos nations, dans nos religions, dans nos communautés, dans nos entreprises, etc. Et les ressources étant limitées, le territoire étant limité, tout étant limité, sauf la population humaine qui est en accroissement, on arrivera forcément à la violence. Je ne vois pas comment les hommes feront autrement, ils ont toujours fait. On a toujours fait la guerre, on a toujours changé tout. Alors maintenant, dans des situations de crise encore bien plus graves, je ne vois pas comment on n'arrivera pas à la violence. Alors si on fait la guerre, là j'ai présenté dans mon livre, on peut se faire disparaître. Si on fait la guerre nucléaire, on se fait disparaître et le problème est réglé une fois pour toutes. Il y aura plus d'humains, va disparaître 80% des espèces vivantes en même temps, et puis d'autres espèces prendront la relève, peut-être les fleurs, peut-être les fourmis, etc. Le problème sera résolu. Ce que je veux éviter, c'est ça. Et si on veut l'éviter, on n'a pas d'autre solution que d'essayer de développer ces utopies du partage et de la loi mondiale qui organise les relations entre les hommes qui ont tendance en effet à vouloir être toujours plus accapareurs, à vouloir être toujours plus violents, ou à se comporter comme des êtres territoriaux, soit individuellement, soit collectivement. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, la tendance c'est ça, hein, quand on est dans le monde, on est effrayé. Pour reprendre des vieux souvenirs 60 ans plus tard, nous on pouvait partir à Katmandou. En traversant toutes les frontières, l'Afghanistan, le Pakistan, etc. Et on disait, c'est très dangereux, la Khyber Pass. À Khyber Pass, il y avait un type avec un vieux tromblon, il suffisait de filer un petit peu d'argent, puis on passait. Maintenant, la première frontière, vous êtes mort. Et c'est vrai que la tendance, c'est exactement le contraire de ce que je propose et que je voudrais qu'il advienne. Simplement, ça ne m'empêchera pas de continuer à proposer. Oui.
C'est la violence. Est-ce qu'il y a un progrès possible sans recours à la violence?
Alors, pour ce qui est de la violence, on a oublié que la violence est créatrice. C'est-à-dire que toutes les sociétés humaines se sont fondées dans la violence. Alors, Papa Freud dit, c'est le meurtre qui est le mur de la violence. Alors, lui, il pense au meurtre du père. Mais René Girard dit c'est la violence qui fait les sociétés, et de préférence en trouvant un bouc émissaire. Alors le bouc émissaire, ben, c'est facile, hein, c'est celui qui a quand même une couleur de peau.
C'est l'autre, c'est l'autre, c'est le barbare.
C'est le barbare.
Le barbare.
Celui de préférence, celui qui n'a pas la même couleur de peau ou la même religion.
C'est mieux.
Ça marche mieux, il faut gagner le bouc émissaire. La violence est constructive. C'est-à-dire que les cités et États se sont construits dans la violence à l'époque où l'écologie était tellement dure que pour lutter contre la famine, on armait les hommes pour les envoyer prendre les biens de la cité et l'État d'à côté, et on trouvait ça moral. contrôler cette violence morale. Notre littérature va entrer dans le temps à glorifier le militaire, et la guerre était morale, elle était belle, les hommes étaient courageux, les femmes étaient courageuses, et on a glorifié ça. La littérature de l'art militaire, c'est éteinte en 68, à partir de 68. On a commencé à dire, et si on donnait la parole aux philosophes ou aux psychiatres, alors ça c'est une révolution.
Et Boris, est-ce qu'on n'est pas en train de vivre un état de guerre écologique, un état de guerre économique? Tout ce qu'on dit, tout ce qu'on entend, ça n'est que ça. Vous êtes d'accord avec cette... la guerre écologique, la guerre économique, c'est ce que nous vivons. C'est une autre manière de faire la guerre que, de, que d'attenter aux matières premières, aux ressources naturelles, que d'attenter économiquement à son voisin.
Je pense qu'il va y avoir une immigration climatique. C'est tout, je ne vois pas comment on pourrait l'éviter. Ouais. C'est-à-dire que l'Occident, quand si l'Occident devient plus pauvre, on peut prévoir que beaucoup d'immigrés vont rentrer chez eux. Par exemple, au Mexique, ces dernières semaines, 200 000 Mexicains sont rentrés au Mexique en disant il vaut mieux être pauvre au Mexique que pauvre aux États-Unis.
Mais c'est la fin du grand rêve américain.
C'est la fin du grand rêve américain, c'est la fin du rêve occidental, mais en revanche, il va y avoir les 200 millions d'immigration climatique. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont rentrer chez eux, comme les Mexicains, les pays pauvres, mais il va y avoir des gens qui vont venir là où il y a de l'eau pour survivre, tout simplement. Donc là, il va y avoir un mouvement de mouvements de population. Le scandale du XXe siècle, ça a été les camps. Que ce soit les camps rouges, les camps noirs, ça a été le scandale, l'inhumanité trop humaine des scandales du XXe siècle. Je pense que le scandale qui nous attend, ça va être les mouvements de population pour la migration climatique. Donc là, on va se retrouver dans une situation où il faudra bien partager ou faire la guerre.
Oui, c'est le rapport de force, justement, ils sont économiques essentiellement.
J'ai souvent dit qu'il y a deux liquides qui sont les causes de guerre actuelles et qui le sont encore plus au XXIe siècle, c'est le pétrole et l'eau douce. On n'a pas assez de pétrole pour tout le monde, surtout avec les nouveaux pays émergents qui, à juste titre, ont envie de consommer autant que les autres. Je ne vois pas comment on pourra en trouver d'autres, puisque c'est une ressource entièrement limitée qui a été fabriquée par la vie, par des bactéries qui ont décomposé des cadavres de végétaux et d'animaux pendant des millions d'années. On a déjà consommé la moitié du pétrole disponible dans le sol, la plus facile à prendre. Et il en reste plus de moitié, sauf que c'est la plus difficile à prendre, la plus chère, la plus compliquée, et en plus, dans un monde où il y a de plus en plus de gens qui en veulent. Donc, guerre pour l'énergie en général et le pétrole en particulier. Un autre facteur limitant, parce qu'en écologie, on parle de facteur limitant, une population peut se développer jusqu'à ce qu'elle rencontre un facteur limitant, c'est-à-dire un élément qui l'empêche, parce qu'il commence à manquer, d'aller plus loin. Un autre facteur limitant, c'est l'eau douce. On en a besoin pour tout. Boire tous les jours, mais pour l'agriculture qui en prend 70%, mais pour l'industrie, pour le transport, etc. Or, l'eau douce est en train de manquer partout. Tous les grands fleuves du monde, ceux qui traversent plusieurs pays, sont déjà l'objet de bagarres entre les pays qui traversent. Quand la Turquie veut faire des barrages dans ses montagnes sur le Tigre et l'Euphrate, et bien en aval, la Syrie et l'Irak, eux disent tout simplement on n'aura plus d'eau pour faire pousser nos cultures. Quand la Chine veut faire des barrages sur le Mekong, c'est tous les pays d'Indochine qui en avalent disent la même chose. Quand les États-Unis prennent plus d'eau du Colorado, à tel point qu'il y a plus d'eau qui coule dans la mer à l'embouchure du Colorado pour arroser les cultures d'agrumes en Californie ou pour envoyer de l'eau du côté des casinos de Las Vegas, eh bien il n'y a plus d'eau pour les paysans en aval. Pour les paysans mexicains notamment, et puis il y a plus d'eau douce notamment qui va alimenter la mer de Cortés. On est comme ça dans tous les pays. Et je ne vois pas comment on arrivera à partager si on ne le fait pas à la fois de façon volontaire, de façon altruiste, en se basant sur un sentiment moral, mais qui ne peut jamais suffire. Il faut aussi qu'on le fasse un peu sous la contrainte, sinon on n'y arrivera pas. Et sous la contrainte, c'est forcément par une organisation qui nous dépassera, qui sera une organisation multinationale, une organisation internationale. D'ailleurs, je m'amuse assez ces derniers jours avoir quelqu'un, enfin, j'ai proposé un gouvernement du monde comme utopie, beaucoup de gens m'ont dit oh, c'est pas possible, ça n'arrivera jamais, de toute façon en Europe on n'arrive pas à la faire. Et comment je vois à l'heure actuelle les grands du monde prendre leur bâton de pèlerin à propos de la crise financière et à dire partout maintenant il faut une loi mondiale pour la finance. Il ne faut pas une que pour la finance, il faut une en général pour l'organisation des sociétés humaines, pour l'exploitation des richesses humaines, pour le partage des richesses humaines. Faut que quoi en effet, là je suis persuadé, on entrera dans les cycles de guerre absolument originales, celles qui sont évoquées par Boris à l'instant, qui sont des guerres qui vont suivre forcément les flux migratoires engendrés par les désastres climatiques et ceux de la biodiversité, l'expansion des déserts, la montée du niveau des eaux, etc. On pense que dans les années 2050, on aura entre 250 et 500 millions de réfugiés, selon ce qu'on fera d'ici là. Ça vous donne une idée, 300 millions de réfugiés, ça veut dire la population des États-Unis qui part à droite et à gauche. Vous voyez que dans des conditions comme ça, si on ne pense pas à organiser les choses un peu à l'avance, et maintenant on a moins en moins d'avance disponible, parce qu'on a perdu beaucoup de temps, eh bien on arrivera à ces situations extrêmes et à ces violences extrêmes.
Pierre, et il faut nourrir 6 milliards d'adultes sur la planète. Est-ce que votre modèle, c'est un modèle qui est nouveau par définition? Il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui en regardant applaudissent, mais il n'y en a pas forcément beaucoup qui aimeraient l'adopter, je dis en passant. L'adopter. Est-ce que vous comprenez, puisqu'il y aura, je crois, 9 milliards d'individus sur la planète dans 20 ans, c'est ça,
25 ans. 10 milliards en 2025, et entre 9 et 10 milliards en 2050. Donc,
mais comment, est-ce que vous avez un modèle qu'il faut bien du progrès?
Oui, c'est-à-dire que je déclare qu'on n'est pas définiste, c'est toi dont nous voulions parler, parce qu'on entend par le progrès.
Alors, allez-y.
Vous savez, quand un toiture se met en place, il commence par quand même apporter les instruments. Nous, on est parti comme ça sur la notion du progrès, sans même nous entendre sur ce que nous entendions par progrès.
C'est peut-être le plus difficile, non? Comment? C'est peut-être le plus difficile, non?
Non, je pense qu'on aurait pu partir sur le consensus, considérant ce qu'on appelle le progrès. Disons que là, manifestement, nous parlons du progrès tel qu'il a été défini, mais l'humanité depuis les origines a fait des progrès. On n'a pas été, on est sorti des cavernes, on a fait. Et puis elle a évolué tout au long de l'histoire, on voit de magnifiques, toute l'histoire est illustrée de magnifiques réalisations humaines qui étaient considérées comme des progrès. Sauf que ces progrès, malheureusement, avec la révolution, néolithique, c'est-à-dire quand l'être humain, qui était dépendant uniquement d'un milieu, d'un milieu naturel avec les ressources de son biotope, et qu'il était collecteur, qu'il était pêcheur, qu'il était chasseur, il se contentait de ce qu'il y avait dans son environnement. Donc c'était l'écologiste, l'écolo vraiment fondamental. Parce que tout ce qu'il prenait de la nature se reproduisait, et en même temps il était dans une modération, c'est-à-dire qu'il ne prélevait pas au-delà de ce qu'il était nécessaire. Et même sa petite hutte, eh bien une fois la mort, la nature la reprend, le cycle et la redéfinit. Quand on est passé par la révolution mythique, c'est-à-dire que l'être humain peut participer à la création de sa propre nourriture. Donc, il n'est plus dépendant de l'existant. Mais il enfouit des graines, il récolte, il stocke. À partir du moment où il stocke, il crée une sécurité alimentaire. Cette sécurité alimentaire libère son esprit pour spéculer. Et c'est comme ça qu'on voit émerger les civilisations. Les grandes civilisations n'ont jamais émergé sans que l'humanité, au départ, ait assuré sa survie. C'est ce qu'on voit en Afrique, quand les gens n'ont pas de quoi manger, ben leur obsession c'est de manger. Donc le mental lui-même régresse parce qu'il ne peut pas, le fait de la survie biologique devient obsessionnel. Sauf que quand on a créé la civilisation, quand les civilisations naissent, elles rentrent immédiatement dans une outrance. On n'a plus besoin simplement de sortir le pain de terre, on a besoin de construire des temples, on a besoin de la métallurgie, on a besoin de la poterie, on a besoin de construire des bateaux, on a besoin de l'agriculture contribue d'ailleurs au stockage qui permet finalement de voyager, d'aller mener des campagnes guerrières parce qu'on a le stock, etc. Mais avec un défaut, c'est que à l'époque il n'y avait pas de pétrole et que tous les prélèvements que l'on faisait en termes énergétiques, c'était la nature. C'est pour ça que certaines civilisations sont mortes de l'excès de prélèvement dans leur forêt. Et certaines civilisations dont nous admirons aujourd'hui les vestiges ont créé des déserts sur lesquels ils sont en société. C'est-à-dire que ce n'est pas d'aujourd'hui que, disons, l'évolution humaine va vers un impact. Je vous conseille d'ailleurs de lire un ouvrage que nous venons de publier qui s'appelle La planète au pillage de Bourbon. Par acte sud, il vient d'être republié, et j'ai tenu à ce qu'il soit republié pour remettre en mémoire que l'humanité, d'une part, depuis les origines, elle a cessé de progresser, mais depuis les origines, elle a cessé de détruire. Le problème d'aujourd'hui, c'est que l'homme garde la même pulsion destructive, destructrice. Et cette pulsion destructrice, entre taper sur le crâne de son voisin avec une massue, ou une épée et appuyer sur un bouton pour envoyer des missiles pour détruire une quinzaine de personnes, c'est la même pulsion meurtrière, mais l'industrie, c'est-à-dire ce qu'on appelle le progrès, a donné à l'être humain des instruments démesurés par rapport à l'évolution de sa conscience. Et dès l'origine, l'être humain a introduit quelque chose par pour se réfugier effectivement dans le groupe social, etc. Si vous regardez la planète, de l'espace, c'est une sphère magnifique. Il n'y a pas un pôle contre un autre. L'éléphant d'Asie n'est pas contre l'éléphant d'Afrique. Il y avait une anecdote aussi d'un milliardaire satisfait qui en quelque sorte relatait, faisait appel au darwinisme en disant qu'on voyait la violence dans le monde, la violence de la nature qui est là. Et donc moi, il y a des prédateurs, donc moi aussi je suis prédateur et j'applique la règle. Sauf que j'avais envie de lui dire, c'était un privilège dans la télévision, on n'est pas d'accord, mais la ferme est arrivée. Je parle. C'est pour ça que je vais regarder ce logo, au moins je sais que qui a tué, je suis, hein, c'est magnifique, on est détendu, il n'y a pas de problème. Bon. Alors, du coup, cet homme-là qui était satisfait, qui disait de moi, après que la règle du gun, j'aurais été présent, j'aurais dit, quand un lion mange un antilope, il digère son antilope. Mais il n'a pas de banque d'antilope, il n'a pas de stock d'antilope. Il ne passe pas son temps libre à stocker des antilopes pour vendre au contrat. C'est là. C'est là où la prédation humaine n'a rien à voir avec la prédation naturelle. La prédation humaine prévient au-delà de la nécessité et donc ruine. Ruine le patrimoine et attendre le patrimoine qui devrait être considéré comme le patrimoine collectif. Certaines civilisations ont compris cela. J'aime beaucoup les cosmogonies hippo-rouges et en particulier les Sioux. Les Sioux, quand malgré l'abondance des bisons, ne prélevaient que ce qu'ils leur revenaient. Et même quand ils avaient tué un animal, cet animal, rien ne devait être gaspillé. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une vision sacrée de la réalité. Ils étaient partis sur le principe, c'est pas la terre qui nous appartient, c'est nous qui appartenons à la terre. Et c'est là l'inversion qui s'est faite. À partir du moment où on a dit les choses nous appartiennent, on est rentré effectivement dans l'histoire de l'argent. Et quand on regardait la planète de l'espace, elle est une et indivisible. Quand on a regardé sur notre monde, ben, c'est un puzzle de nations, effectivement, c'est un puzzle de multitude de nations, et cela justifie la défense du territoire et donc les armements. À tel point qu'on consacre beaucoup plus de soins et de dépenses considérables aux armements. Il paraît que nous pouvons détruire 3 planètes, pourquoi ne pas avoir encore détruit une, et puis on économise le reste. Je veux dire, c'est ça. Donc, on est dans quelque chose de vraiment irrationnel et infantile. Et c'est l'infantilisme de l'humanité qui va être très naturel.
Merci. Vous avez une question irrationnelle et d'infantile. Infantile, c'est le mot que vous retenez.
Alors, oui, c'est le mot, parce qu'on peut l'associer à la dernière catastrophe de disait que tant que nos enfants, en nous-mêmes, on n'était pas capable de se représenter le monde des autres, les intérêts des autres, les valeurs des autres, on était infantilisés. C'est pour ça que Freud avait proposé l'expression « les enfants sont des pervers polymorphes ». Alors, si vous voulez associer quelqu'un, dites-lui « tu es un pervers polymorphe ». Alors, mais c'est pas faux, parce que dès l'instant où on se représente le monde mental de l'autre, on ne peut plus, pour se faire connaître, donc la moralisation, la morale apparaît dès l'instant où on se représente le monde des valeurs, la religion, l'histoire de l'autre. Et là, on ne peut plus se permettre, donc on est plus infantile.
Je vais compléter un petit peu ce qu'a dit.
On va te poser des questions, hein, Pierre.
Sur la loi de la jungle, on dit toujours que la loi de la jungle, c'est le lion qui mange la gazelle, c'est la violence, c'est le meurtre, c'est le prédateur, la proie. Et la réalité, c'est pas du tout ça. Ça, c'est une vision du darwinisme qui a été écrite par les libéraux bouchistes. Pour aller vite dans la caractérisation, la loi de la jungle, c'est pas tout ça. Il y a au moins autant d'associations, d'alliances, de symbioses, de vie en commun, de mise en commun des problèmes, de résolution en commun des problèmes à l'intérieur des espèces et entre espèces différentes qu'il y a de violence. Et nous, les humains, de ce point de vue-là, on ne peut pas penser qu'on est différents. On n'est pas la seule espèce qui ne va avoir comme relation sociale avec son environnement et avec elle-même que la violence. Si on ne pense pas qu'on est une espèce essentiellement sociale, que c'est ce qui nous a permis de réussir dans l'évolution, c'est notre association avec les autres, à ce moment-là, on va perdre toute notion de la réalité. Et je ne pense pas que ça sera par cette exacerbation de l'individualisme qu'on trouvera la moindre des solutions. On la trouvera, cette solution, par l'exacerbation de l'altruisme, je pense beaucoup plus.
Bien, merci à vous. Alors, je voudrais maintenant que nous entendions les questions du panel des étudiants, qui tournent évidemment autour de toutes ces... de toutes ces thèmes, de toutes ces thématiques que vous avez évoquées, notamment ce progrès de nous, vous l'humanité à l'échec. Alors, comment est-ce que ça se passe? Vous avez un micro. Enfin, mais je vous en prie.
Bonjour, Master de programme de Chassé Paris. Donc, l'histoire nous apprend qu'aucune espèce n'est éternelle, que seules celles qui peuvent s'adapter à un cataclysme survivent. Le progrès, la survivance, la suprématie humaine est en train de menacer des ressources et des espèces essentielles à sa propre survie. La question est la suivante. La réflexion impliquant l'augmentation de la biodiversité et une baisse de l'empreinte écologique par la diminution de la présence démographique humaine est-elle un axe de solution?
Vous avez dit qu'il y a pas de ça.
Merci de poser une question sur celle-ci. Alors, le CERF de l'île de Wan savait que vous poseriez cette question ce soir et ils ont fait une expérimentation pour vous. Alors, l'expérimentation, la volonté naturelle, est la suivante. En 1950, 5 CERF ont été mis dans l'île de Wan qui est près de Vancouver. Et c'était un pays de cocagne pour cerfs, il y avait de l'eau, il y avait de la végétation, il y avait tout ce qu'il faut pour rendre des cerfs heureux. Et ils se sont développés parce qu'ils étaient heureux, et ils avaient de la nourriture, de l'eau, de l'écologie. Et 30 ans plus tard, surprise, sur les 400-500 cerfs de l'île, en 200-300, presque tous sont morts. Et ils sont morts. Il n'y a pas de maladie, pas de virus, pas de bactéries, pas de famine. Et ils sont morts et avec aussi Christian, qui est un autre hydrologue, a découvert que ces cerfs étaient morts d'hémorragie surrénale, c'est-à-dire de stress. Ces cerfs-là étaient tellement bien adaptés à cet environnement de cocagne qu'ils avaient eux-mêmes détruit l'environnement de cocagne, qui fait que le surnombre fait que chaque rencontre n'était plus ritualisable. Rituel, ça veut dire que je ne peux pas te le permettre, je suis obligé de tenir compte de l'existence de mon congénère, je suis obligé de l'adapter, de le respecter. Voilà, le temps de parole, je lui ai donné, je me suis dit pendant qu'il parlait, donc on a fait un petit rituel d'interaction, et donc ils étaient tellement nombreux grâce à leur relèvement important. Ils étaient tellement nombreux grâce à leur surpâture, hyper-adaptation, qu'ils avaient détruit le milieu qui les rendait heureux. Alors, la question qui me vient en tête pour vous répondre, c'est quelle est, nous, notre surpâture? C'est pas l'herbe, c'est probablement le monde de l'artifice qui a fait la force de l'évolution humaine.
L'argent,
l'artifice de la parole et l'artifice de la technologie, l'argent, les machines, l'ordinateur, les transports d'avions, tout ce qui fait la victoire du monde artificiel qui caractérise la condition humaine. Et alors, est-ce qu'on est en train de faire comme le CERF, c'est-à-dire en s'interadaptant, en triomphant des problèmes que l'avenir nous propose, tant que ça n'est pas en train de faire un phénomène de surfacture, c'est-à-dire grâce à la technologie, grâce à l'artifice, de détruire le monde auquel on se fait si bien adapter.
Gabriel de Valeret, étudiant à HEC. Donc je voulais revenir vers le but du progrès et un petit peu les fondements. Et pour cet exemple, la dopamine était assez intéressante parce que il semble qu'en fait on tend à faire plus confiance à la science qu'à soi-même pour régler ses problèmes. Et donc est-ce qu'une des caractéristiques de notre société n'est pas d'élever la science au rang de religion avec une réelle foi dans la science, faute de compréhension face à toute la complexification du monde? Et n'est-ce pas de là que vient un petit peu l'amalgame qui est fait entre un progrès réel pour l'humanité et simplement le progrès technique qu'on constate?
Boris, je ne veux pas prendre. Non, mais on mange la parole des autres, mais vous m'avez regardé en parlant, donc vous m'avez donné la parole. Alors, oui, par exemple, je vais reprendre dans un nom que je vous ai proposé tout à l'heure. L'espérance de vie des femmes, jusqu'en 1850, était de 36 ans. Je ne parle pas d'espérance de vie populationnelle, en tenant compte de la mortalité infantile. Je parle de la réelle des squelettes de femmes qui étaient de 36 ans, c'est-à-dire 36 ans. Alors, l'espérance de vie était très brève. Une découverte scientifique, Simmel-Weiss, pour prophylaxie d'accouchement. Dès l'instant où, grâce à cette découverte, il met au point la prophylaxie de l'accouchement, l'espérance de vie des femmes augmente de 20 ans la génération suivante. Donc, réel progrès. Et puis, on continue. Et avec l'Organisme mondial de la santé, avec Norman Sartorius, qui était le directeur de la section santé mentale, on fait des courbes. Et on constate que plus la technologie caractérise un pays, plus ce pays se désolidarise, c'est-à-dire qu'on demande désormais à une machine de résoudre un problème humain. Alors, cette désolidarisation, on le voit aujourd'hui dans l'accouchement. Il y a deux générations, quand une femme mettait au monde un bébé, elle était entourée et fêtée. Et il y avait même le rituel des relevailles, c'est-à-dire que la femme disait « je suis fatiguée », le groupe de femmes et d'hommes qui l'entouraient s'occupait du bébé, de sa nourriture, de la vie quotidienne, et un jour, elle se relevait. Elle avait un but spécial, le but relevable, et un jour, elle se relevait et disait « ça va, et maintenant, je peux reprendre ma place dans le groupe des êtres humains ». Aujourd'hui, quand une jeune femme est au monde d'un enfant, elle est toute seule avec ses machines. Et on voit qu'il y a une augmentation des dépressions du postpartum, des dépressions après la grossesse, qui est énorme. Actuellement, il y a 25% des dépressions du postpartum, c'est-à-dire c'est absolument énorme. Ça ne veut pas dire qu'avant ça n'existait pas, mais alors quand ça existait, les relevailles, c'était pris en charge par le groupe, et hop, elle souffrait, et puis hop, elle redémarrait. Actuellement, c'est pris en charge par quoi? Par la technologie utile. Alors ça veut dire qu'on demande aux machines de résoudre des problèmes qu'on sait résoudre de manière humaine.
Et oui.
Boris Cyrulnik a très bien répondu à la question qu'il vient d'être posée. J'essaierai de re-répondre à la précédente, comme ça on s'en fait logique. En réalité, je crois que pour faire l'adhésion entre le progrès et la population, on doit se souvenir d'une chose, en effet on est très nombreux aujourd'hui, nous les humains, 6 milliards 700 millions, 1 milliard en 2025, et entre 9 et 10 en 2050, Et le problème de la population est évidemment un problème central quand on se demande si le progrès est possible. Le progrès est possible, certes, dans une petite communauté, dans une petite région du monde. Est-il possible pour tout le monde, sachant que la population humaine est devenue si nombreuse et sachant qu'elle continue à s'accroître? Alors, quand on parle des problèmes de population, dans une assemblée comme celle-là, on a toujours quelqu'un qui dit « Ah oui, mais vous voulez parler du problème de la population, ça veut dire que vous voulez tuer la moitié de la population du monde. » Et on a une autre personne qui se lève en disant « Moi, j'ai trouvé la solution, il n'y a qu'à laisser faire les maladies et la misère, et la moitié de la population du monde va disparaître, comme ça, la solution aura été trouvée. » Évidemment, il est question ni de vouloir tuer la moitié de la population du monde, ni d'en laisser mourir une moitié, il est question d'essayer de voir comment on peut arriver à résoudre ce problème, qui est en effet un problème central. Et pour ça, on est obligé d'en revenir à la question de la science et de la technique, en se rappelant simplement quelques chiffres rapides. Quand on était Cro-Magnon, vous et moi, il y a 17 000 ans, par exemple, on était à peu près 10 millions d'êtres humains sur toute la Terre. Et en effet, avec la révolution néolithique qui a inventé l'agriculture et l'élevage, on a multiplié notre population par 100. On est arrivé au premier milliard à la veille de la révolution industrielle, sous Napoléon, grosso modo, et ensuite on a explosé en population. Et c'est parce qu'on a fait ces inventions techniques, l'agriculture et l'élevage d'abord, et ensuite on a domestiqué les énergies fossiles, la houille avec la machine à vapeur, le pétrole avec les moteurs, qu'on a pu étendre notre puissance, coloniser la totalité de la Terre, se répandre partout, ouvrir des nouveaux champs, ouvrir des nouvelles régions de culture, de nouvelles mines, et ainsi de suite, et ça nous a permis de devenir aussi nombreux. C'est bien parce qu'on a fait ces progrès techniques, intellectuels, et ces progrès de civilisation, comme on disait jusqu'à une époque récente, qu'on est devenu aussi nombreux. Et maintenant, en effet, on est confronté au problème qu'étant donné aussi nombreux, on se demande si les progrès vont pouvoir continuer. Et je crois qu'il va falloir, là aussi, qu'on résolve les problèmes d'excès de population de manière extrêmement démocratique, de manière extrêmement pacifique, en prenant les choses très en amont, parce que là, les tendances sont très lourdes. Et grosso modo, on sait qu'on ne résout pas les problèmes d'excès de population par des lois extrêmement contraignantes. Ça a été essayé en Chine, d'autres façons en Inde, on se retrouve avec des générations où les garçons sont beaucoup plus nombreux que les filles parce qu'on a sacrifié les filles quand il fallait faire qu'un enfant. Donc il faut arriver à trouver des moyens de réduire cette folle course de la population humaine de façon elle-même humaine, de façon morale, de façon tout simplement équitable. Et je crois que là, sans durer très longtemps dans cette démonstration, je peux résumer deux des points principaux que nous devons essayer de faire avancer pour que cette question-là soit moins aiguë dans les années qui viennent. La première, c'est que beaucoup de gens dans le tiers-monde, là où le taux de natalité est encore très fort, beaucoup de gens font des enfants pour avoir une retraite des vieux, c'est-à-dire pour que leurs enfants évoluent sans qu'ils pourront plus travailler. Donc une faible contribution des pays riches à la retraite des vieux dans les pays pauvres serait une bonne manière d'avancer une décrue de la population dans certains pays où la natalité est encore très forte. Et alors surtout, on s'est aperçu d'une chose qui paraît peut-être évidente à posteriori, mais qui n'était pas avant, c'est que la natalité s'effondre là où on donne de l'éducation aux enfants. Et en particulier, la natalité s'effondre là où on ouvre des écoles pour les filles. Quand les filles vont à l'école, même peu d'années, eh bien, elles cessent d'accepter le rôle de mère pondeuse pour le mâle dominant d'espèce. Et ça, je crois que c'est la principale des leçons qu'on a pu tirer des campagnes pour faire diminuer la population dans le monde. En fait, c'est quand même l'éducation qui est la manière plus efficace et la plus humaine de parvenir à ces résultats-là.
À propos de la science du monde.
Oui, c'est-à-dire que je voudrais réagir sur la démographie. Ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est que, par exemple, le continent africain est un continent immensément riche. Il représente à peu près 10 fois la superficie de l'Inde avec 900 millions d'habitants.
C'est-à-dire en termes de ratio, c'est un pays qui est en plus 60% de la population en moins de 30 ans. C'est-à-dire qu'il a trois facteurs positifs. Il peut parfaitement nourrir très largement sa population. On a calculé que simplement l'Éthiopie cultivée correctement l'ensemble du continent africain. Il recèle des ressources qui sont convoitées et nourries de façon extraordinaire. Donc tout cela remet en question la démographie sur une pensée non pas de simple prolifération, mais aussi d'équité dans les populations. Vous savez que la fameuse empreinte écologique met en évidence que si chaque être humain, citoyen de la Terre, voulait vivre comme un Américain, il faudrait 6 à 7 planètes. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui ruine la planète aujourd'hui, ce n'est pas la grosse population, 70% de l'humanité n'en ruine pas la planète, c'est les 30% auxquels j'appartiens qui ruinent la planète. Voilà, c'est pas mal. Je voulais réagir aussi sur la science. Je n'ai aucune déférence à l'égard de la science. Effectivement, elle l'a érigée comme quelque chose d'extraordinaire. D'ailleurs, même dans le discours courant, c'est scientifique, il n'y a plus rien à dire. Bon, c'est comme sauf que la science, elle est remède, elle est humaine, et qu'elle véhicule, elle produit du meilleur et du pire. Elle a produit des choses magnifiques, elle a produit des horreurs. Je pense qu'aujourd'hui nous avons la bombe atomique, nous avons toutes sortes d'inventions terrifiantes. C'est bien la science qui l'a faite, c'est pas les extraterrestres, mais les malades. C'est bien elle qui l'a réalisée. Donc aujourd'hui la science, beaucoup de scientifiques, des gens qui font de la science non pas simplement je vais trouver quelque chose, mais qui font de la science une exploration, presque une sorte de voyage d'initiation à travers la matière. Qu'est-ce que la matière va me révéler de profond dans ce qu'on appellerait la sémantique, c'est-à-dire la grande question aujourd'hui, c'est de savoir est-ce que tout est hasard de nécessité ou est-ce qu'il y a à l'origine l'intelligence, un esprit qui a défini notre destin et qui a défini l'univers. Et cette question reste évidemment la question qui en fait fait un clivage et des esprits. Ce qui fait que la science, dont la vocation était effectivement tant qu'elle est attribuée en tant que science moderne, la science aussi, elle est depuis les origines. Avant, elle s'appelait alchimie, elle s'appelait toutes sortes de dénominations. Vous n'avez qu'à lire Paracelse et vous verrez que c'est quand même un scientifique, mais il se définissait plutôt comme alchimiste et non pas comme scientifique. Quand on est arrivé à la science qui définit sa validité à travers je vérifie quelque chose, ce qui est vérifiable, ce qui est démontrable objectivement, etc. On arrive à cette science, ce qui est appelée le scientisme, et qui a en fait une réduction au niveau de l'esprit parce qu'elle a évacué l'intuition. C'est-à-dire qu'on ne doit pas polluer l'objectivité avec de l'intuition. Or, un être humain est d'abord quelqu'un de subjectif. Et aujourd'hui, certains grands scientifiques disent que, notamment par la physique quantique, ils disent que quand on observe quelque chose, on l'observe aussi avec le prisme de notre personnalité. Et la nature est une telle prestidigitatrice qu'elle peut vous renvoyer ce que vous avez envie de voir. C'est-à-dire psychologiquement, vous êtes convaincu que quelque chose que vous voulez voir, elle vous le renvoie. Vous voulez autre chose dans votre vie. Sauf qu'aujourd'hui, le problème, donc, ce qui remet complètement en cause le problème de l'objectivité, dont la science a la prétention, puisque dans l'objectivité, c'est comme la bourse, entre la crise et la bourse, il y a une grande part de subjectivité, de peur, etc. Mais comment quantifier cela? Et comment gérer la crise de la bourse d'une façon rationnelle? C'est pratiquement impossible. Pourquoi? Parce que quand vous introduisez de l'irrationnel dans un système, vous introduisez évidemment les représentations, les préjugés de l'être humain. Et c'est pour ça que la science risque d'être, qu'il était censé éradiquer, en quelque sorte, l'obscurantisme, et éradiquer les superstitions, elle est en train de devenir obscurantiste. C'est-à-dire que c'est une science obscurantiste. Sa création, sa créativité s'inspire évidemment de la subjectivité humaine. D'où la nécessité de quelle conscience. C'est pas d'aujourd'hui qu'on dit sans conscience, la ruine de. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous avons plus que jamais. Puisque la science a remis à l'être humain des outils hyper perfectionnés, mais avec une conscience non évoluée.
Ce qui manque, c'est le pendant écologique, c'est-à-dire le pendant écologique qui doit nous éclairer sur qu'est-ce qu'aujourd'hui est la nature, comment est-elle organisée, puisque nous sommes éléments de la nature. C'est pas un scoop que de nous dire que nous sommes tous des mammifères, je regrette, mais c'est comme ça. On n'est pas plus avancé qu'une vache ou qu'un mouton en ce qui concerne notre physiologie, forcément physiologique. Mais nous sommes dotés, évidemment, d'entendement intelligent, j'ai des réserves, d'entendement, nous sommes dotés de conscience, nous sommes dotés d'un libre arbitre, c'est-à-dire nous pouvons décider et nous pouvons modifier les règles de la nature telles qu'elles nous ont établies à l'origine, à nos risques et périls, et pour mieux les contrôler. Donc, plus que jamais, la science, avec ce perfectionnement qu'elle met en place, qu'est-ce que c'est aujourd'hui un certain nombre de techniques? Moi, j'ai l'impression que l'Internet, c'est Internet du tout non plus. C'est pas le coup de donner à Internet une valeur minimale. Et quelquefois, c'est la connexion des sécurités, vous savez. Parce qu'une société qui se désolidarise et qui n'a plus une structure sociale de proximité, c'est-à-dire on confond communication avec relation. La relation, je crois que le socio-économique ne peut pas être d'accord que la relation est extrêmement importante. Quand on est avec les autres, dans l'atmosphère des autres, dans la proximité des autres, d'abord on est plus rassuré parce qu'on est dans un groupe et qu'il y a quelque chose de sensible qui vient. Et la science aujourd'hui produit des prothèses. C'est-à-dire qu'elle compense ce que déshumanise par des instruments et des outils. Et aujourd'hui avec le portable, c'est comme, vous voyez, il y en a qui disent, je ne suis pas joignable à un portable, mais il y en a qui disent, je dois être joignable à tout prix, parce qu'on ne sait jamais si le soleil se met à tourner à l'envers, il faut quand même que je sois présent. Donc il y a des deux. Et du coup, on est avec cette messe électronique en permanence, qui fait que le temps de l'oubli, le temps, j'avais un ami qui me dit, mon fils est parti à l'école, mais je suis en contact avec lui. Je dis, mais pourquoi tu ne le lâches pas? Pourquoi tu ne fais pas ça? L'absence, notre absence, ça va creuser en toi ton affection, ta nostalgie de lui, etc. Si tu es tous les gens connectés à lui. Et donc, je dirais qu'aujourd'hui, plus que jamais, compte tenu des perfectionnements de la science et compte tenu de l'évolution limitée de l'espèce humaine, plus que jamais, nous devons veiller véritablement sur une science qui soit positive et qui invente du positif. Et non pas du négatif. Et si nous continuons à inventer du négatif, évidemment, ça va accélérer le processus d'extermination humaine, et je ne dirais pas bon débarras, mais je dirais c'est dommage, parce que quand même, je crois vraiment que l'univers est organisé sur une intelligence extraordinaire. Je dis souvent aux gens, prenez simplement une graine et méditez sur une graine à l'intérieur d'un corps. Dans une graine. Elle se met une graine de tomate, elle vous donne des tomates, elle ne vous donnera pas des énergies ou autre chose. Et pourtant, elle est insignifiante. Donc, ce qui veut dire qu'à l'intérieur, la grande leçon de l'écologie aujourd'hui, c'est qu'elle nous dit que l'intelligence est universelle, mais ce n'est pas une question de cerveau ou de sortir d'une grande école. C'est lié à ce qu'on appelle la lumière, c'est-à-dire la lumière qui éclaire, en fait, qui devrait éclairer nos actes. Parce qu'aujourd'hui, si vous êtes extraterrestre, nous observent, ils diraient qu'ils sont surdoués, mais ils sont crétins. Parce qu'on a... Comment on peut survivre à autre chose? Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, l'attention, par exemple, à l'écologie, est en intégrant notre propre corps, nous-mêmes dans l'écologie, parce que nous faisons partie de cet ordre-là. Nous sommes l'œuvre de la nature, et on l'oublie très souvent. C'est pour ça qu'on se met comme les patrons qui font n'importe quoi de la nature. Donc, en prendre conscience de tout cela, ça veut dire s'intégrer véritablement à l'intelligence de la vie. Et une fois qu'on est intégré à l'intelligence de la vie, nos actes vont être éclairés de façon à ce que nous puissions survivre. Si nous ne faisons pas cela, nous avons de transgression en transgression. Et le total de nos transgressions, aujourd'hui, on en fait déjà un peu là. Donc il est temps d'arrêter puisque nous sommes dans une espèce d'ultimatum qui nous dit qu'il faut que vous changez pour que vous disparaissiez.
je vais essayer de poursuivre ce que je veux dire. C'est que, effectivement, notre conscience est marquée par le développement scientifique. Mais que le développement scientifique n'a jamais eu pour enjeu de dire la vérité. Si vous voulez connaître la vérité, allez voir un gourou. Si vous voulez, au contraire, si vous aimez vous poser des problèmes, si vous aimez de l'incertitude, si vous aimez le débat, faites en fait scientifique. Alors, mais ça, il y a aussi quelque chose qui nous embrasse à la présentation de scientifique, c'est que dans la salle, une personne sur deux veut des certitudes. Et à ce moment-là, les scientifiques, ils disent, c'est ce que vous l'avez dit, ils disent, c'est scientifique, donc c'est vrai, c'est pas un jeu, les scientifiques. Mais comme vous l'avez dit aussi, il y a en nous un espace de liberté. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de se soumettre à ce qui a été découvert, on n'est pas obligé de se soumettre complètement à la technologie, on n'est pas obligé de se soumettre aux événements qui nous tombent dessus. Mais n'empêche qu'on est quand même pétri par votre passé, pétri par votre culture et par la manière dont on vit. En revanche, là, je vais citer Jean-Paul Sartre, je ne vais pas vous présenter, mais il y a une phrase que je vais vous donner de lui, c'est « Qu'allez-vous faire de ce qu'on a fait de vous ?» Et là, il y a un espace de liberté. Vous avez été pétri par votre culture, votre enfance, votre passé, la technologie, la science. Qu'est-ce que vous allez en faire? Est-ce que vous allez continuer la perversion de la parole tout à l'heure, ou est-ce que vous allez au contraire chercher à limiter, à combattre les effets secondaires de nos progrès? Et là, on a un espace de liberté, donc de débat.
Bonjour, je suis étudiante à l'Institut supérieur de l'environnement, donc j'ai une question. Quand vous parlez de comment le grand gouvernement mondial, vous considérez que c'est un progrès mondial qui risque d'harmoniser les idées, les pensées, les cultures, et donc entraîner une perte d'identité nationale et de l'étranger.
J'ai l'impression que ça serait assez beau. Oui, mais je crois qu'on a déjà parlé, c'est vrai que c'est une utopie, hein, donc...
La prétention justement de jouer au gourou, ne faut pas au gourou politique en disant suivez-moi tous, c'est comme ça qu'il faut faire. On a déjà eu ce genre d'expérience, et je ne vais pas les renouveler. On doit simplement, dans cette idée-là, essayer de construire ensemble quelque chose de nouveau. On a constaté que ce qui fonctionne à l'heure actuelle ne nous plaît pas beaucoup. Et encore, nous, on vit dans les pays riches, je ne sais pas, parmi les 900 millions de gens qui ont faim, 300 millions de gens qui n'ont pas accès à l'eau potable, mais quand même, ça nous déplaît, on ne se sent pas bien, on a un mal de vivre, on n'est pas heureux avec cette société de consommation, cette société de destruction de notre environnement, de notre mère, la terre. Et donc, si on veut construire quelque chose, il va falloir qu'on commence par humblement, je crois, renforcer quelques-uns des organismes de l'ONU qui existent déjà, qui sont tolérés par l'ensemble des pays du monde, pour essayer de tout révolutionner dans le champ, parce que c'est jusqu'au plus bas, même plutôt à la dictature. Il faut essayer de bâtir de façon plus modeste sur ce qui est déjà en place. À l'heure actuelle, il y a un seul organisme international qui a du pouvoir, c'est l'Organisation mondiale du commerce. Elle a un pouvoir de légiférer, elle a un pouvoir de sanctionner. Les organismes de l'ONU qui s'occupent les uns de la santé, les autres de l'environnement, les autres de l'eau et ainsi de suite, de l'éducation, sont là pour faire joli, mais n'ont le pouvoir ni de dire la loi, ni de sanctionner ce qu'ils ne respectent pas. Et tant qu'il n'y a pas pouvoir pour ces organismes-là, par contre, de ce qui existe, comme je l'ai dit, de sanctionner ce qui ne respecte pas une loi qui a été décrétée par la communauté mondiale, eh bien, on n'arrive pas à faire réellement avancer les choses. Donc, je modère un peu l'utopie en disant, ne pensons pas qu'on va tout révolutionner du jour au lendemain, essayons de bâtir en renforçant, profitons des périodes comme la période actuelle pour renforcer les pouvoirs des organismes internationaux reconnus par l'ensemble de la communauté humaine et essayons d'avancer. Avançons le plus vite possible, créons le plus vite possible ces lois internationales. Il y a quelques-unes qui commencent à être en place. On a un tribunal international qui est en train de sanctionner les crimes de guerre et ainsi de suite. On peut arriver si on veut vraiment en mettre une autre, à la fois à mettre des limites à la destruction du monde par un certain nombre de personnes qui ont tout intérêt immédiat à le détruire, et je pense qu'on peut arriver dans le même temps à construire un peu plus de relations chaleureuses, humaines et altruistes envers les autres. Ça sera un petit travail de tous les jours, et j'ajoute quand même que le problème est qu'on a beaucoup de temps, et que le petit travail de tous les jours se conjugue avec une urgence absolue du 21e siècle. Et on est quelque sorte coincé dans cet entonnoir-là. Il faut qu'on aille à la fois vite et qu'on fasse les choses de façon consensuelle. En général, ça ne va pas ensemble.
Merci. Alors, je vais vous dire que nous allons bientôt conclure, parce que là, le temps nous reste. Je dois simplement libérer Maurice, parce qu'il a un train à prendre, et là, on commence à être tout à fait juste. Simplement, pour vous dire que cette parabole des cerfs que vous évoquiez tout à l'heure, elle est dans votre dernier livre, qui s'appelle Anthropologie dans les commentaires, autobiographie dans les commentaires, c'est moi qui vous commente, et qui est tout à fait remarquable. Je ne vous recommande pas. Vous êtes content? Merci à vous. Alors, une dernière question, parce que je ne veux pas que mademoiselle
vous regarde avec un grand sourire.
Elle est là, je suis adressée à la chercheuse. C'est pas grave. Moi, je suis Christelle Chandelou, étudiante en management du Club Bougeard à la chaussée. Et en fait, je pense que tout le monde s'accordera pour dire, et d'ailleurs, vous l'avez chacun à votre manière souligné, qu'atteindre quand même le développement soutenable nécessiterait une transformation profonde de nos modes de fonctionnement, de nos modes de pensée et de tout l'ensemble des piliers qui régissent notre quotidien. Et donc en fait, au-delà de l'utopie justement, est-ce que vous pensez que la civilisation occidentale est véritablement capable d'accomplir cette transformation d'un point de vue comportemental, voire technologique, et si tel est le cas, sur quelle durée cette transformation peut-elle s'étendre?
Je crois qu'on doit chercher ailleurs aussi des réponses. Je répondrai simplement par une anecdote. J'ai été, il n'y a pas très longtemps, faire un voyage en Nouvelle-Guinée chez les Papou. Il y avait une cérémonie qui consistait dans la chose suivante. Il y a la grande maison dans laquelle vit tout le clan. Et puis, cette grande maison, dans cette cérémonie-là, est attaquée par les jeunes générations qui sortent de la forêt et qui veulent l'apprendre. Et il y a les anciennes générations qui représentent la culture, la tradition du peuple, qui sont à l'intérieur de la grande maison, et symboliquement, ils défendent leur culture, leur peuple, leur façon de vivre contre l'agression des jeunes générations qui représentent l'extérieur. Et dans la façon ordinaire de mener cette cérémonie-là, eh bien, il est entendu entre eux que les anciens gagnent. Ils gardent les traditions, la façon de vivre, la culture de ce peuple-là. Et moi, quand j'ai assisté à cette cérémonie-là, j'ai assisté à une scène tout à fait inattendue. C'est que au moment où les anciens étaient censés gagner, eh bien, réellement, un des anciens s'est effondré, évanoui, et il a fait un malaise. Et j'ai vu là-dedans une sorte de symbolique de ce qui arrive à l'heure actuelle pour toutes ces cultures primitives dont on aurait beaucoup à apprendre, c'est qu'elles sont écrabouillées par la civilisation occidentale qui pour l'instant a mis son empreinte partout et qui a imposé partout également sa façon de raisonner et sa façon de se comporter dans le monde. C'est une histoire qui est un peu triste, mais qui résume à mon avis assez bien la situation actuelle, sachant que le lendemain on retrouve dans le village partout les gens avec des t-shirts de Milan AC, de Chicago Bulls et avec la chaîne de télévision au milieu du village.
Voilà. Pour vous dire que vous avez sans doute des cartons sur vos sièges tout à l'heure, eh bien, ce sont des cartons qui vous permettraient de faire des points. À l'appel aux 4000 de l'association Solibri, que Pierre Rabhi a mis au jour, et qui
qui a au revoir la consultation pérennale. Voilà. Et par ailleurs, une seconde pour vous dire aussi que de la part de l'association Navarro France, eh bien, Lorenza, qui va nous rejoindre sur le plateau, va remettre un cadeau à Pierre. Voilà, regardez.
Bonjour Pierre, bonjour à tous. Il y a Thierry Abinet, il y a Thé qui veut dire bonjour en langue de Navarro. Nous sommes ici, puisque nous parlons de mythes et de progrès, posons ici notre regard sur la différence des cultures. Voici une œuvre. C'est un cadeau pour toi, Pierre. Et c'est une œuvre qui est un trait d'union entre les pensées, les actes et les actions, et entre un peuple, les Indiens Navarro d'Arizona. Cette peinture de sable est issue des rituels de tradition et de guérison mis en place par les Indiens sur les territoires d'Arizona. Ce sont des gens qui respectent la terre, évidemment, et le nom de cette œuvre s'appelle Ozo. Ozo veut dire beauté, harmonie, santé et rend hommage à la terre mère. Cette œuvre a été réalisée par mes amis ici présents. Nous avons voulu te la remettre pour te remercier et soutenir tous tes actes pour rester envers la terre mère. Merci Pierre.
Et j'ai toujours été extrêmement sensible à ça. Je n'ai rien d'autre à dire que merci.